Malheureusement, jusqu'à maintenant, c'est vrai, on n'a pas beaucoup apporté la question de la religion. Hein. Voilà, donc on verra. Bon. Comme tout à l'heure, on a déjà parlé que M. Ge, dans l'institut, dans le centre qu'il a fondé, dirigé à Fudan University, il a lancé de presque plus de 20 ans, hein, un projet de recherche, hein, de regard de la Chine à partir de périphérie, hein, s'appuyant sur les documents anciens au Japon, coréenne, vietnamienne, etc. Donc, aujourd'hui, hein, c'est aussi pour cette raison que j'ai invité mon ami professeur hein, François Giboulou. Parce que, pas simplement, il est un très grand chercheur, et surtout, dans le passé, il a justement fait certaines recherches similaires à celles menées par l'équipe de M. Kejaoguan. Il a publié un livre, hein, la Méditerranée asiatique, hein, Yadou de Tidonghai. Hein. Donc, voilà, c'est là, c'est très intéressant. Donc, on l'écoute pour hein, une discussion à ce propos. Voilà. La parole est à vous. Merci. Merci.
Merci Zhang Lun. Je voudrais d'abord donc remercier Zhang Lun de m'avoir invité cet après-midi pour cette table ronde autour du livre de Monsieur Ge. Je voudrais aussi m'excuser auprès de l'audience et du professeur Ge parce que je ne suis pas du tout un spécialiste des questions politiques ou de relations internationales. Je travaille plutôt sur une sorte de d'économie comparée. Ou plutôt, j'essaye de revisiter la question de la divergence entre Europe et Chine à partir de la trajectoire d'institutions économiques et de pratiques marchandes dans les deux environnements. Et ce qui m'a d'abord frappé en lisant le livre de Monsieur Ge, mais je crois qu'on en a déjà parlé, cette déconstruction vigoureuse du mythe d'un pays et d'un peuple qui seraient unis depuis 5000 ans. Au fond, les notions occidentales de souveraineté, de nation, de continuité historique sont devenues aujourd'hui des parties intégrantes de la pensée collective chinoise, mais longtemps, les choses ont été complètement différentes. Au milieu du XVIe siècle, lorsque des marchands portugais tentent d'approcher le marché chinois, ils sont relégués au fond dans des activités de contrebande. Certains sont capturés, passent longtemps en Chine, et ce qui les frappe, c'est que les Chinois se définissent par rapport à la région, par rapport à la ville dans laquelle ils vivent, ou comme étant les sujets du Grand Ming, mais jamais comme étant des gens appartenant à une nation précise. Donc, ce discours sur la nation a été, je crois, aussi récupéré par les autorités en une sorte de revendication de légitimité, mais non pas en une définition de nation ou d'État au sens où il a été entendu par la suite. Alors, en lisant le livre, j'ai été très frappé par un certain nombre de, comment dire, d'éléments qui font contrepoint au travail qu'on peut faire en tant que chercheur, économiste, historien, disons, qui travaille sur deux espaces complètement différents, hein, l'Europe et la Chine. Et trois points saillants m'ont semblé intéressant à noter ici. Le premier, c'est la ville. Hein. Au fond, la ville au Moyen Âge en Europe, c'est un espace où comment dire, le politique se déploie dans la pluralité des offices, des magistrats. C'est une matrice, hein, de la formation de ce que l'historien hongrois Such appelait des petits cercles de liberté. Mais ces petits cercles de liberté, finalement, ils s'équilibrent, ils font contrepoids à un pouvoir qui serait seulement autoritaire, et ils développent des formes archaïques, rudimentaires, de démocratie. La ville en Chine n'est par contre jamais un espace politique ou économique qui jouit d'autonomie. On est dans un maillage qui descend de la, comment dire, de l'autorité bureaucratique, qui est connecté par la puissance militaire ou la capacité d'extraction fiscale au pouvoir central, mais on ne voit jamais des magistrats urbains ou des autorités urbaines négocier, que ce soit sous forme de contrat, de charte, leur espace de pouvoir avec la bureaucratie centrale. Le deuxième élément qui me frappe, c'est le droit, et en particulier le droit privé. Hein. On ne parle pas d'un droit pénal, d'un droit punitif, mais vous connaissez tous cette opposition entre gouvernement des lois, gouvernement des hommes, qui suppose tout de même la responsabilité individuelle, une responsabilité individuelle qui est dessinée, qui est caractérisée, alors qu'il me semble que ce qui prévaut en Chine, c'est le rite, en ce sens que le rite unit, le rite est considéré comme un instrument de contrôle et un élément de la stabilité sociale, alors que le droit implique la division et les responsabilités individuelles. Troisième élément, l'individu, puisqu'au fond, on en a parlé, je crois, dans les interventions précédentes, l'apparition du citoyen, égal à ses semblables, en droit et en dignité, bien sûr, se fait très tôt dans l'histoire européenne, et le contraste est frappant avec la situation chinoise. Alors, je crois qu'il y a aussi, on a mentionné les rapports entre le politique et le religieux. C'est peut-être une remarque très banale, mais me semble que la désacralisation du pouvoir a commencé très tôt en Europe et qu'elle n'a pas lieu en Chine. Voilà les quelques réflexions sur lesquelles je voulais lancer une discussion avec le professeur Ge ou avec l'audience. Encore une fois, j'ai trouvé le livre extrêmement stimulant. Je le trouve courageux aussi et posant des questions fondamentales. Et donc, j'espère que sa diffusion sera aussi large que possible en France et en Europe. Merci.
J'ai oublié de dire un mot tout à l'heure, c'est que François a publié il y a 2 ans, quoi, hein, un livre sur le capitalisme chinois, l'impossible capitalisme, hein, c'est tout c'est un excellent ouvrage. Moi, je compte d'organiser quelque chose, un départ peut-être autour de ce livre-là. C'est un livre excellent, hein, c'est un très 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 bon livre. Et je regrette un peu, ça c'est une grande qualité de François, il est hein, très très fort, mais il est toujours très modeste. Vous voyez que il a économisé beaucoup de temps, la parole, au lieu de parler plus. Il nous laisse beaucoup de temps pour la discussion. Mais j'aime bien qu'il en parle un peu plus. Bon, mais en tout cas, maintenant, je passe la parole à M. Gazan-Guan pour réagir d'abord, hein, pour le premier tour. On verra la suite.
我拜读过
教授的这个亚洲的地中海这个书，刚好跟我们最近提倡的把东海、南海看成是一个历史事件这个说法呢，连在一起是有共同之处的。我们都特别同意，15世纪以后，其实中国的重心，其实从兰克利教授研究的宋代开始，他的重心就从西北转向东南了。这个我觉得，中国面向海洋，这个大概是在11、12世纪南宋初就已经很明显了。
Merci votre intervention, donc Monsieur Gipolou. Donc j'ai eu l'honneur enfin j'ai eu le plaisir de vous lire votre livre donc sur la Méditerranée en Asie, qui m'inspire une véritable sympathie puisque avec mes collègues en Chine, nous avons actuellement tendance à penser que la mer de l'Est et la mer du Sud constituent donc en Asie donc un monde historique commun. Et la Chine donc qui avait enfin l'Empire chinois qui donc jusqu'au XVe siècle se concentrait essentiellement dans le nord-ouest de son territoire à partir justement de la grande enfin, de cette époque, du XVe siècle, tend à se tourner vers le côté sud-est, donc à savoir près de la mer. Et donc, c'est un phénomène historique qui apparaît déjà sous les Song du Nord, donc à partir de environ XIIe siècle.
其实这个我们一直关心这个问题，就是说尤其是15世纪，就是1405年以后，中国开始转向东南，转向海洋以后，东海和南海的形势和关系有什么变化？大家都注意到这个琉球，吕宋。马六甲实际上是当时海洋上东部沿海、东部亚洲贸易的一个，加上中国的泉州是一个连锁。但是到了欧洲殖民者逐渐的从印度洋过来以后，它是反的方向，就是从马六甲、爪哇，然后吕宋到中国的澳门。然后到这个长崎是倒过来的，这两个力量相交错以后，整个东海就连成了一片了。因此呢，在经济上如果来看东部亚洲海域这块地方，实际上它确实是一个，就像吉教授讲的这个，它是亚洲的地中海。
Donc l'intérêt que nous portons justement sur cette transition du centre de gravité de la Chine à partir de sa zone ou de sa région nord-ouest vers le sud-ouest près de la mer sous les Ming et notamment donc à partir de 1405 c'est que nous les historiens nous considérons qu'il y a une évolution majeure de la situation globale en mer orientale et méridionale, donc dans la mer du Sud de Chine. Il est connu que de nombreuses cités marchandes au bord de la mer, comme que ce soit Okinawa ou Malacca ou bien Quanzhou, donc en Chine, constituaient un réseau de commerce donc actif depuis très longtemps. Mais le fait, enfin, de l'arrivée donc du pouvoir colonial européen provoque des échanges en sens inverse, c'est-à-dire allant depuis Malaga, Java et jusqu'en Macao, faisant donc ainsi de la mer de l'Est et la mer du Sud une zone unifiée où des activités commerciales économiques, enfin étaient confrontés à deux forces en compétition. Voilà. Donc c'est un phénomène qui mérite d'être étudié.
但是留给我们的一个特别难以解答，或者说特别重要的问题是，为什么传统中国一直到现在中国，仍然保持着传统的陆地帝国的传那种习惯，而不能够变转变成一个海洋国家？为什么一直到清代末年，中国还在争论是西北边防重要，还是海上边防重要？ 那么，为什么一直到现在，我们还是不像这个像欧洲殖民者呢？他们非常重视的是岛屿、港口和城市。为什么我们不是像这样的？因为我们并没有把贸易看成是最重要的。所以这里面有很多值得讨论的问题。我觉得这个关于 一个传统的老帝国，就是陆地帝国和海洋帝国之间的差异，其实对后面影响是蛮大的。
Alors, donc, cet intérêt, comme je mentionnais, recoupait évidemment donc, le centre d'intérêt de M. Giboulot, donc à savoir la Méditerranée asiatique. Mais la question qui reste posée, c'est de savoir pour quelles raisons, hein, malgré cette évolution, la Chine traditionnelle reste un empire principalement terrestre et non pas maritime, sachant que même jusqu'à la fin de l'ère impériale, donc des Qing, les discussions étaient encore acharnées, donc concernant l'importance de la défense maritime ou la défense terrestre dans le nord-ouest. Et ceci jusqu'à aujourd'hui. Hein, pour quelles raisons donc l'importance qu'a prise pour les civilisations, enfin pour les pays européens, les îles, les ports, les villes ne connaît pas donc le même développement dans le cas de la Chine. Et sans doute, l'une des raisons, c'est justement l'attention accordée au commerce, aux échanges commerciaux.
这个还有最后一个问题就是，为什么我们到现从传统到现在，对于东南亚、对于东南海、对东海都很重视，对东北亚很重视，可是为什么对东南亚和对南海始终没有那么重视？我们学术界其实对于东南亚和环南海的这些国家 研究的是非常少的，可是到现在，好像中国政府一再说南海很重要，南海很重要，可是对于南海的历史、地理和文化，为什么研究的就不够？这是我们的一个问题。
Et dans donc le monde académique chinois, la question que nous pouvons nous poser, c'est de savoir pour quelles raisons donc la tradition persiste encore donc dans cette négligence vis-à-vis de cette région, la région donc de l'Asie du Sud-Est, ou les pays autour de la mer du Sud, malgré bien évidemment les discours officiels qui n'arrêtent pas de nous rappeler l'importance de la région, mais les recherches, que ce soit dans l'histoire, la géographie ou la culture de ces pays, restent donc grandement sous-développées.
Comme François, Monsieur Gipoulou a laissé beaucoup plus de temps, comme ils sont des très bons collègues, je pense que ici on a hein, il y a présent Monsieur Lamoureux, c'est un grand spécialiste de dynastie des Song, donc hein, vous voulez pas aussi hein, de dialoguer un peu, si vous voulez, profitez-en bien. Je sais que vous connaissez très bien Monsieur Ge, comme hein, c'est un vieux ami de longue date. Voilà. Donc, si vous voulez, j'aimerais bien que vous donniez aussi certaines remarques à ce propos. Hein. Monsieur Lamoureux, c'est un grand spécialiste de justement cette période de Song dynastie.
Oui, je suis surpris. Merci de me donner la parole.
Désolé.
je ne sais pas trop quoi dire parce que je n'ai pas lu le livre de Monsieur Goe, puis que je viens juste d'acheter, comme plusieurs d'entre vous, je pense. Qu'est-ce que je peux évoquer, sinon que j'étais là vendredi dernier, lorsqu'il y a eu ce dialogue entre le professeur Schmitt, Jean-Claude Schmitt, et Monsieur Goe, et j'ai écrit à l'un et à l'autre après la réunion pour leur dire ma satisfaction. Là, j'ai raté, enfin, ma satisfaction d'avoir assisté à leur échange. Ce qui m'a frappé quand même, c'est la difficulté toujours de ce comparatisme. Hein. Malgré tous les efforts de Zhang Lun, des traducteurs qui sont excellents, on l'a bien vu tout à l'heure quand on a parlé du rapport, quand on a parlé des régimes politiques, des formes politiques, c'est les concepts eux-mêmes, vous avez beaucoup insisté hein, sur ces questions de terminologie. Tout à l'heure, en aparté, pendant la pause, j'ai évoqué avec M. Goe une question qui me semble pas inutile à partir des quelques connaissances que je peux avoir sur cette Chine qui est considérée comme le début de la modernité, l'époque des Song. Pour lui dire deux choses. La première, bien sûr, une chose qu'il connaît bien, c'est qu'il y a 100 ans déjà qu'on parlait de la modernité des Song. C'est la sinologie japonaise, en particulier un sinologue japonais, Naito Konan, qui... Runan, oui. Qui est le premier à parler de cette modernité des Song, et son projet était tout simple, il était de câbler l'histoire asiatique avec l'histoire occidentale. Déjà, c'était un projet comparatiste, c'est-à-dire quand commencent les temps modernes. Voilà. Alors, évidemment, ce qu'il faut savoir, c'est que Naito Konan meurt dans les années 1930 et qu'évidemment, sa théorie a servi à démontrer que certes, la Chine avait été moderne dès la dynastie des Song, qu'elle avait réalisé une sorte de renaissance, mais sans la révolution industrielle. Et c'est le Japon, bien sûr, qui, lui, avait réalisé cette révolution industrielle, et c'était à lui que revenait, évidemment, le destin de moderniser l'Asie. Vous connaissez la suite tragique. Ça, c'est un premier point que j'ai évoqué avec lui. Le deuxième point, c'est à propos du rapport, puisqu'on a parlé de politique, entre religion et pouvoir politique. C'était déjà un sujet important vendredi dernier, puisque Jean-Claude Schmitt est spécialiste du Moyen-Âge. Ce qui m'a frappé, c'est au fond la difficulté pour l'un et pour l'autre de dialoguer sur ce qu'était au fond la religion, la papauté, etc., parce que chacun a suivi un chemin parallèle. Et la seule remarque que j'ai pu faire, et je vais m'arrêter là, c'est que certains épisodes, précisément pendant la période des Song, montrent bien qu'il y a eu des moments assez importants où cette question de la politique et de la religion a été abordée d'une façon très différente en Chine. C'était au tout début du XIe siècle, avec une affaire dite des écrits célestes, qui est survenue parce qu'il fallait que l'empereur légitime son pouvoir. Et il l'a légitimé justement par la religion et par un lien particulier entre pouvoir impérial et religion. Or, malheureusement, en Chine, depuis un millénaire, cet épisode est considéré comme une farce. Nao tu, disent les Chinois. Et je disais à M. Guang, qu'il serait très important pour penser les relations entre religion et pouvoir impérial de revisiter des épisodes comme celui-ci sans considérer a priori que c'est une farce. Le deuxième cas, bien sûr, c'est le cas de l'empereur Huizong des Song, qui lui aussi est un fervent taoïste, que connaît bien, bien sûr, M. Ge, et qui lui est considéré comme le fossoyeur de la dynastie et qui est complètement considéré comme, sinon un traître, un des pires empereurs de l'histoire chinoise. Donc ma remarque porte moins sur ce qui a été dit aujourd'hui que sur cette difficulté qui a amené un comparatisme, je dirais, interne. Monsieur Zhang a rappelé les difficultés en tant que traducteur et en tant que préfacier. Je crois que c'est un long chemin qui vaut la peine. Moi, je suis très admiratif de ce que Monsieur Zhang a réalisé, hein, et à la fréquentation de ces réunions, il y a beaucoup de gens intéressés. Donc, je le remercie. Je suis désolé de prendre la parole comme ça,
c'est moi,
un peu au déboté, pour dire quelques réactions, à la fois encore une fois d'admiration et du constat de la difficulté de ce travail qui reste encore à mener. Nous l'avions commencé il y a 30 ans avec M. Ge, alors qu'il était encore à l'université de Tsinghua, qu'il était à Pékin. Voilà. Voilà, excusez-moi pour ce...
Non, non, mais c'est très bien, c'est très bien. C'est justement, c'est plein dans le sujet. Hein. Vous dites, vous adressez votre admiration à moi, j'ai honte, hein, je ne le mérite pas, parce que je dois dire, hein, maintenant, comme on a encore un peu de temps, je peux profiter de cette occasion de m'exprimer mon regret, que j'étais vraiment très très pris, donc, mais j'ai eu cette volonté de le faire relativement rapide. Si j'avais un peu plus de temps, peut-être ça serait un peu encore mieux, mais malheureusement je peux que faire bon, sinon ça risque de tomber dans l'eau le projet. Voilà, donc si jamais vous, hein, vous découvrez des fautes, des erreurs, je suis entièrement responsable parce que je voulais déjà dire les deux édictistes qui ont fait des super boulots. Et donc, le reste, si on n'est pas satisfait, bon, la responsabilité entière, hein, entièrement à moi. Mais une fois que je dis ça, je reviens encore pour dire que pour mentionner ce problème, ce que vient d'être dit. Ce matin, je commence, vous n'êtes pas encore là, je dis que ce soir, aujourd'hui, cette petite rencontre intellectuelle. On a cette grande rencontre depuis le Ming, depuis le Qing, entre la Chine et l'Occident, en rendant énorme problème, hein, le défi, transformer complètement la Chine et aussi en partie l'Occident. Mais cette question de traduction, dès le début de Ming dynastie, s'impose jusqu'à nos jours. Donc, c'est vraiment difficile. Et donc, les jeunes dans cette salle, on compte sur vous, continuez à prendre le flambeau, de continuer à mener cette tâche très difficile, parce que, comme ce matin je l'ai dit, l'histoire de la Chine du XXe siècle, c'est d'une certaine manière une histoire de traduction, okay? Politiquement parlant, culturellement parlant. Hein? Donc, c'est vraiment difficile. Une fois que je dis ça, il y a quelque chose, je pense que pour reste pas sino-centrique, hein, peut-être pour éviter certaines critiques, et je pense que, à ma connaissance, ça concerne aussi certains d'autres mondes, hein, d'autres parties du monde, du monde arabe, hein, toutes ces questions qui font partie les grands enjeux de notre temps, hein. C'est comment mieux mener la traduction, c'est-à-dire au fond, mener ce dialogue, hein, pour augmenter la compréhension réciproque. Je pense que c'est, on est toujours en mi-semaine. Même je suis pas sûr, arrive comme Madame Bastide ce matin a bien dit, même dans une, dans la France, dans l'histoire de la France, de thème, hein, ça change aussi au cours de temps. Donc, ça sera un défi permanent. Il y aura toujours des difficultés, toujours des malentendus, toujours quelque chose erroné Et c'est peut-être dedans, il y a des mauvais côtés, des bons côtés, il y a des nouvelles choses qui sont inventées, qui sont créées. Voilà, c'est là, c'est que je réagis à ce propos, parce que c'est tout au long de cette journée jusqu'à maintenant, sans cesse, on a cette question qui est toujours là. Bon, je viens de vérifier le email. Ce matin, Michel m'a envoyé un mail en disant que le CRIP est bien installé chez lui. Il a dit que le matin, forcément, il ne pouvait pas venir. Mais maintenant, on est déjà après-midi. Je pense que c'est dommage. Parmi six intervenants, il y a deux sont absents. C'est comme ça, c'est la vie, hein. Ça fait partie de la vie. j'arrive pas à contrôler eux-mêmes non plus. Voilà, donc c'est pas leur faute, c'est pas la mienne non plus, hein. Donc voilà. Donc dans ce cas-là, on a prévu de finir à 15h, non, 17h un peu plus. On a encore un peu de temps si on voulait. Je peux, pour une fois, jusqu'à maintenant, ouvrir un peu le champ de discussion pour les auditeurs sagement, hein, rester à la place pour écouter, pour savoir si vous avez des questions, n'hésitez pas de poser à tous ces intervenants et aussi surtout à Monsieur. Bon, avant que je vous laisse la parole, j'aimerais bien dire deux, trois mots sur Monsieur. Parce que tout à l'heure, au moment de déjeuner, Monsieur Bézard, c'est un autre sinologue que tout le monde connaît, hein, et Madame Bastide, elle a des obligations familiales, et elle m'a déjà prévenu qu'elle devait partir plus tôt. Hein. On lui pose des questions, hein, sur le parcours concret. On sait que M. Gezaoguang a passé longues années en tant que jeune instruit, hein, Zhiqing, hein, avec la raison familiale, de passer 18 ans dans la province fin fond de la de Guizhou, jusqu'à maintenant. C'est un endroit. Après, il a passé 10 ans là-bas. Il y a quelques jours, il m'a parlé d'une expérience très intéressante. Il a dit que à ces portes-là, une seule fois, il a gagné le plus de l'argent, 36 yuan, des choses comme ça. C'est parce qu'il a travaillé une semaine dans une mine pour extraire le charbon. Ah, il était tellement content parce qu'une année de revenus à l'époque, 7 yuan, c'est tout. Hein, c'est bon. Et donc, il était tellement content. Et donc, le parcours de monsieur est très particulier. Pendant 10 ans, hein, il n'a pas une formation normale. Donc après, en tant que jeune instruit, vous riez travailler pour fabriquer des briques. Hein, ce n'est pas le technicien. Hein. Vous comprenez? Et donc après, à 28 ans, il a réussi à passer le concours entrée à Pékin Université. Avant l'examen, quand il a eu de nouvelles, qu'il a eu le 3... Il pouvait passer l'examen. Il a que un mois. Hein. Pendant un mois, il a préparé. En un mois, il a tout étudié le maths de lycée. D'ailleurs, il a obtenu un bon note, hein, pour l'examen. Il a réussi à entrer à Pékin Université d'État à l'âge de 28 ans. J'en parle de ça, c'est pour une chose. Hein. C'est pas pour parce que ce aujourd'hui, il y en a beaucoup de jeunes qui sont là. Je peux imaginer les difficultés que vous rencontrez de temps en temps, mais par rapport à celles que rencontrez par monsieur, je pense que les vôtres sont relativement mineurs. Okay? Donc, et c'est là, je dis que à partir du fin fond de la Chine, il y a quelques années, monsieur que retourné, il a découvert cet endroit, il a quitté il y a déjà 40 ans, pratiquement pas changé. Sauf il y a l'électricité est arrivée. Hein. Donc, simplement pour vous dire, à travers le cas de M. Ge, c'est pas simplement un historien qui a étudié la histoire. Lui-même, en soi, c'est un acteur de l'histoire, c'est un témoin de l'histoire. Donc, voilà, c'est ça que je pense que ça mérite quelques mots pour vous présenter, parce qu'on est en France. Hein, je ne suis pas sûr, beaucoup des universitaires, hein, si ce n'était pas le spécialiste de la Chine, mesuraient le parcours très particulière de cette génération hein, d'intellectuels chinois. Donc, voilà, même les jeunes chinois, je ne suis pas sûr que vous mesurez hein, ce parcours, le défi. Voilà, donc, ça fait partie de l'histoire contemporaine de la Chine, l'histoire intellectuelle contemporaine de la Chine. Donc, j'ajoute quelques mots pour vous raconter un peu de petite histoire, dans l'étude de l'histoire, dans le camp de l'histoire. OK? Voilà. Donc, maintenant, je vous laisse la parole si vous avez des questions, s'il y a certains points sont pas très clairs, ou c'est l'occasion de poser la question. Voilà. Oui.
Je triche un peu, mais je ne veux pas priver l'auditoire de poser des questions. Mais si on a un tout petit peu de temps, j'aimerais bien demander quelque chose, une chose à laquelle j'avais pensé ce matin, dont je n'ai pas parlé, qui est à propos des usages différents de la langue en Chine et dans le monde méditerranéen ancien, sans me prononcer ailleurs. Parce que je voudrais savoir, dans cette logique d'unification, d'homogénéisation que joue l'empire chinois, qui est différente de celle de l'empire romain, on a effectivement deux différences majeures. L'une dont j'ai déjà parlé, qui est le fait que l'empire romain n'a pas cherché à imposer sa langue à d'autres personnes plus qu'il n'était nécessaire. C'est-à-dire, le latin est imposé en Occident seulement aux élites des cités qui doivent négocier avec l'Empire. Et en Orient, le grec fait très bien l'affaire parce que tous les Romains, tous les membres de l'élite romaine qui est au service de l'empereur connaissent le grec. Donc, il y a déjà ce bilinguisme très profondément enraciné et avec une sorte de hiérarchie inversée, puisque pour tout le monde, y compris les Romains, le grec est une langue supérieure au latin. C'est extraordinaire que les Latins aient construit une littérature dans leur propre langue, ce que n'a fait aucun peuple méditerranéen par rapport au grec. Tous les autres peuples ont utilisé le grec pour écrire de la littérature, même ceux qui avaient des langues sophistiquées. Les Latins ont inventé une littérature latine, mais ils ont laissé le grec comme langue officielle de l'Empire pour la partie orientale. Mais il y a un autre aspect que je trouve intéressant, c'est la différence dans l'usage de l'écriture. Parce que le grec et le latin s'écrivent dans deux alphabets tout à fait différents. Et lorsque les langues locales se développent à la fin de l'Empire romain, que ce soit le syriaque, que ce soit le copte, que ce soit le retour des langues gauloises ou les langues germaniques, il faut réinventer des langues complètement. Et l'évolution linguistique concourt à la division politique de l'Empire romain. Et je ne sais pas du tout, et c'est une question de curiosité, comment ça fonctionne en Chine. Est-ce que tout le monde parle le même chinois ou parle des chinois différents et l'écrit de la même façon? Je serais curieuse de le savoir pour intégrer cet élément dans l'équation des empires. Merci beaucoup.
Oui. 在这个战国就是秦统一之前语言大同小异因为在秦之前还有一个大一统就是西周就已经大一统了只不过那个时候是封建制 到了秦汉以后呢，它这里面出现了文字绝对统一化，就是说，在我们现在发现的汉代的竹简和秦代的竹简，无论在北方、南方、东方、西方，都是一样的。所以呢，文字是绝对的统一化。
Dans le cas de la Chine, donc l'usage des langues, il faudrait d'abord noter que avant l'unification de l'Empire, donc qui s'est opérée au cours du 3e siècle avant Jésus-Christ, donc sous les dynasties Qing, enfin la dynastie Qing, les langues existaient dans les différents royaumes des royaumes combattants, observaient déjà de grandes similitudes avec, il est vrai, de différences tout à fait notables aussi. Mais ceci est dû au fait qu'il y a eu, quelques mille ans auparavant, une autre, une précédente unification, l'unification féodale sous la dynastie des Zhou, où il s'agit donc, enfin, les vainqueurs de la guerre contre les Shang avaient instauré ce système de fief, et puis il y a eu déjà une première donc unification culturelle, de quelque sorte, qui fait que la langue, certes, était, il y avait déjà une sorte de langue commune, mais ce qui arrive avec l'instauration de l'Empire sous les Qing, c'est que l'écriture va devenir absolument unifiée, c'est-à-dire que les fouilles archéologiques qu'on a découvert là, donc même jusqu'à récemment, donc des écrits des dynasties Qing et des Han sont écrites tous dans la même graphie, puisque ça a été par le décret impérial unifié de telle façon. Tandis que au niveau de la langue, de la pratique de langue orale, ce sont ce qu'on dit des dialectes, donc des diverses langues locales qui donc perpétuent d'ailleurs jusque très récemment. Oui. Impérial chinois, vous voulez dire.
Non, les Japonais ont
pris
des langues.
C'est
comme latin, vous voulez dire, une sorte de latin oriental.
Des connexions phonétiques.
Oui. Absolument.
Attendez, que laissez. Voilà, laissez.
Laissez M. Gu développer donc son
argumentation. Voilà, fini après, oui.
D'accord, j'ai une petite chute.
C'est que chou. 统绝对统一是靠法律，以及到各地去担任地方官员的文书，以及他们的这个政令的下达，把这个整个国家的文字形成一个统一文字。这个统一文字到目前看来，最南边到广东，最北边到鄂尔多斯，最西边到青海。 最东边一直到海洋边上，我们现在发现的考古发现的竹简上面的文书都是同一种文字，但是各个地方确实是有与口语的差异的，所以汉代有一个伟大的学者叫杨雄，就写了一本书叫《方言》。那么他之所以要写《方言》，就是为了让大家。 不同方言的人互相能够了解，但是毕竟，中国即使是方言，它语言还是一个语系，就是口音不一样。Alors
donc l'instauration de cette langue écrite commune, donc s'est passée avec les promulgations, enfin l'application des lois d'un côté, mais aussi la pratique bureaucratique des officiers, donc de différentes autorités administratives à travers les ordres donnés et autres, donc à travers le système bureaucratique. Les fouilles archéologiques aujourd'hui donc attestent que cette homogénéisation de l'écriture s'étend sur un territoire très vaste, donc au nord jusqu'au Mongolie actuelle, Mongolie intérieure, au sud dans la province de Guangdong, à l'est jusqu'à la mer et à l'ouest jusqu'à une province qui s'appelle Qinghai. Donc c'est presque sur le plateau tibétain. sous la dynastie de Han, donc autour du IIIe siècle, Xiangxiong peut-être un peu plus tard, deux ou troisième siècle, un lettré comme Yangxiong, par exemple, avait dû composer même des ouvrages intitulés Dialectes, pour la bonne et simple raison qu'il entendait faire comprendre les pratiquants de la langue chinoise de dire un dialecte, de pouvoir se comprendre. Donc, M. Ke soutient que la langue, malgré la différence de prononciation, ça reste une langue, au sens de la même langue, famille de langue.
最后要讲一点，就是刚才提到的日本、朝鲜、越南，他们也都使用汉字，但是他们尽管使用汉字，使用汉字的人基本上是精英，他们的语口语跟文字是分开的，他们是讲的是一种话，书写是一种，这两种是不一样的。
Et pour revenir donc à la question soulevée par ce monsieur de la Noire, d'accord. Et donc à propos de l'usage des caractères chinois au Japon, en Corée et au Vietnam, il est important de noter que l'usage du chinois écrit donc n'était courant que dans l'élite cultivée de ces pays. La langue parlée donc dans ces pays-là était totalement différente.
Merci. Est-ce que les chercheurs chinois ou d'autres connaissent par curiosité le pourcentage d'alphabétisation, de capacité de lecture très globalement dans les différentes périodes? Est-ce que qui maîtrise l'écrit en Chine? Qui peut faire du coup ce passage des dialectes à la langue?
关于中国的识字率是一个有很多人专门的研究，一般来说，有估计的差别很大，最高的估计到30%的人是可以识字的，但是以我看没有那么多，大概有在1911年以前的传统中国时代。
Les données historiques donc, sur le taux d'alphabétisation en Chine traditionnelle donc, a effectivement connu de nombreuses études de recherche, mais les estimations varient grandement entre les chercheurs. Donc, la plus optimiste estimation donne donc un chiffre, un taux autour de 30%, ce qui me semble tout à fait exagéré. De mon point de vue, jusqu'en 1911, donc jusqu'à l'ère républicaine, peut-être autour de 10%, et on est déjà à un chiffre tout à fait glorieux, si c'était déjà bien. Vous parlez là.
Oui, c'est des questions, c'est vraiment pour ma curiosité un peu égoïste. Mais dans le monde romain, enfin gréco-romain, on a des périodes où on a l'impression que l'écrit est partout, par l'administration exactement comme en Chine, puisqu'il y a beaucoup... Plus on avance dans l'Empire romain, plus il y a de procédures administratives qui sont portées par des écrits qu'on connaît dans des papyrus, sur des tablettes de Vindolanda, et bien sûr par des inscriptions. Et on a les mêmes débats entre 10 et 20% de personnes qui maîtrisent l'écriture, mais avec des règles qui sont intéressantes. Autant l'État romain n'a jamais... Il n'y a pas de décret imposant un type d'alphabet. On ne sait pas très bien comment l'alphabet s'est imposé, mais on sait par exemple qu'au IIe siècle de notre ère, lorsque l'empereur publie un décret, ce décret est, ou un rescrit ou un édit, parce que ce n'est pas vraiment des décrets, ces textes sont envoyés à chaque gouverneur de province, recopiés et archivés, puis envoyés à chaque cité. Et dans la cité, il y a des règles d'affichage sur le forum pendant un temps très long. Et on a même une loi impériale qui précise que ce décret doit être assez bas pour que tout le monde puisse le lire. ce qui ouvre des interrogations sur ce que c'est que de savoir lire hein, dans le monde romain. Et ça pose plus de questions que ça n'apporte de réponses. Et tout le monde s'accorde à dire qu'à la fin de l'époque romaine en Occident, il y a un déclin de cette alphabétisation. Un livre d'un collègue néerlandais, je crois, Mark Muster, un médiéviste, qui avait écrit un livre qui m'avait beaucoup plu, qui s'appelle Send Me Socks, Envoie-moi des chaussettes, et qui montrait comment on passait d'une société où on trouvait des écrits qui disent des choses banales. Je t'écris pour savoir si tu vas bien, j'espère que tu vas bien et qu'il en est de même pour toi, et envoie-moi des chaussettes, à un monde où l'écrit est rare et on ne l'utilise que pour dire des choses importantes, religieuses. Je pense qu'on n'aura pas le temps de revenir sur la question religieuse aujourd'hui parce qu'elle est trop vaste, mais politique, des choses opérationnelles, mais importantes, après une période où dans le monde romain, on a eu des moments où l'écriture permettait des futilités familiales d'un fils à sa mère, d'une sœur à son frère. Et ça, c'est ce type d'écrit qui disparaît en Occident entre le 5e et le 7e siècle. Hein. On n'a plus de texte de ce type.
其实这个关于识字率的问题实际上是个很麻烦的东西。第一个是识多少字算是识字，这个标准有的高有的低，在我们1950年代扫盲运动的时候是以1500字为标准的。 这是第一点呢，就是说，到底识字率是我刚才这位教授讲这个罗马10%到20%，我们估计中国恐怕到不了这个数字。
La question donc du taux d'alphabétisation est tout à fait compliqué, en tout cas difficile à traiter dans le cas de la Chine. La question qu'on pourrait poser, c'est, puisque c'est des caractères, donc combien de caractères va être considéré donc être alphabétisé? Et donc, dans les années 1950, lorsque le gouvernement avait initié donc cette campagne d'alphabétisation dans sa population, on pensait, enfin, on avait estimé que 1500 caractères, par exemple, devaient suffire pour être alphabétisé, mais... Est-ce qu'on peut... Voilà, la question, c'est que c'est très difficile à évaluer.
Bien sûr. 因为在中国呢，跟罗马不一样，那个汉字你必须得识得1000，大概要识得3000字呢，可以读我们现在的报纸。如果识得1500字，大概最多能够应付日常生活里面，比如说。 买个东西啊，什么日常生活里面这种，琐事，所以这个程度是不一样的。但是在中国，识字识的少没有关系，帝国的命令、帝国的这个旨意呢，仍然可以传达到地方。这是因为中国古代有一个特殊的现象，就是家族，他能把政府的一些政治要求。
Donc, c'est pour cela que le taux 10 à 20% dont vous avez parlé, évidemment, dans le cas de la Chine, ce serait bien difficile. Pour le chinois moderne, on estime qu'il faut autour de 3000 caractères pour pouvoir lire des textes. Alors que 1500 suffit peut-être juste pour des échanges quotidiens banals. Mais le problème, donc l'alphabétisation ne pose pas de problème, toutefois, pour le fonctionnement de l'Empire, puisque dans le cas de la Chine, le rôle de relais peut être joué par les familles, par exemple, les clans, qui donc pouvait faire relier les ordres donc venant de pouvoir Gauss, 因为那个苏廷内老师在讲的时候，他举了一个蛮有意思的具体的例子，我不知道你有没有讲到，就是他讲到说，就还控制了范的后面，他说在那个西罗马晚期的时候呢，就是研究证明说这个识字率有下降的趋势。那么其中的一个具体的案例呢，他是说有一位我不知道le chercheur le Saint Messer Marc Messer， 反正有一位研究人员，他写过一本研究叫做寄袜子给我那本书，我不知道刚才你有谈到这个没有？寄袜子给我是怎么回事呢？是说在早期的时候，古罗马早期的时候，这种非常日常的、非常不正式的交流，都会有文字记录，都有文字说啊，你给我。就日常的交流，你给我送一个，把我袜子寄来等等。而这样的文字呢，在古罗马晚期，就到了五到七世纪以后呢，基本上就消失了，就不再看得到这样的文字，而只看到就是考古中间看到的都是一些比较重要的涉及到宗教啊或者政治的这些一些文字的留存下来。那么不知道在您所了解的中国的历史材料里面，类似的这种这个识字率的变化啊，会不会有相应的一些材料？
因为中国在汉代以后啊，最基本、最起码的识字教育是通过一本叫做《千字文》的书，还有就是这个一些类似于通俗的识字课本这样的东西来进行的。那个字数是很少的，就是比如说《千字文》《仓颉篇》。这样的东西现在在考古发现里面都已经重新看到他们在早期中国的留下来的实物了，所以那个时候的基本教育还是有的，但是有多少人能够认得仓颉篇、千字文这样的东西，这个我们始终还是没有一个很明确的结论。
L'enseignement du chinois, donc l'état d'enseignement du chinois est connu d'une certaine façon par les découvertes archéologiques des manuels d'alphabétisation qui donc comportent certaines versions donc fort anciennes, donc de la dynastie des Han autour du deuxième siècle jusqu'à plus tard, donc ont été découvertes. Donc cela veut dire qu'une éducation de base aidait sans doute.Assuré, vu le nombre donc, de copies découvertes. Mais concrètement, combien de personnes avaient accès à ces documents-là ça reste vraiment un sujet à étudier.
Ok, j'ai vu, c'est madame, c'est la femme de professeur Ge, c'est un grand spécialiste de littérature classique chinoise.Elle a déjà prononcé une conférence à INALCO. Tout à l'heure, j'ai vu qu'elle a levé les mains. Je crois qu'elle a quelques infos à nous livrer à ce propos.
那 我补充一下，就是刚才讲识字率的问题。汉代有一个书叫《急救章》，《急救章》是汉代编出来，就是给一般认识字的人来读的，有韵语的，就是可以容易记诵的。那这个书里边有人统计1400个字左右，所以这个所谓急救就是临时要用这个，所以大概是一般人要用到的这么多的字，这是这个数字哈。那另外一个我要补充的啊，好。
Donc Madame Day nous fournit donc cette information. Par exemple, sous la dynastie des Han, donc toujours deux siècles avant et après Jésus-Christ, il existait donc un texte intitulé À l'improviste, cela s'appelle. Donc c'est un texte en vers, rythme, donc rimé. Pour faciliter la mémorisation, n'est-ce pas? Et donc, les statistiques qui ont été faites sur ce texte nous donnent un chiffre donc, autour de 1400, donc 1400 caractères. Voilà, ça c'est la première information. In tissu.
就是刚才讲到那个，其实是讲口语，就是书信和正式文书的区别，在罗马有。其实，在中国也有这样子的情况。那正式的这个，如果皇帝的诏令啊、官府的一些正式的文件，是用一种语言。当然，在地方官的正式的文件里头，他可能也用比较口语化的语言，这是有可能的。 那另外呢，就是像那样子记袜子的那个书信，在中国也是有的。那最早我们现在能看到的就是，敦煌的有人戍边的士兵，那会写信写给他的家人，也是用的很口语化的语言。那到了中国，大概在五世纪、六世纪，就是刚才讲到的那个时期，四五世纪吧。你比如说是像这个现在一些书法家留下的这个书帖，王羲之的书帖，那个帖其实就是书信。 那这些书信里头，那还有一些了，比他早的也有一些。那这些书信也是用相当口语化的语言讲的，也是日常的送东西啊、问安啊、问生病啊。那以至于这个因为口语化的程度高，以至于我们现在学者反而不知道他在讲什么了。
Et donc, la différence que vous mentionnez, à savoir donc les écrits qu'on pourrait dire quotidiens et les écrits officiels, donc cette différence-là existait évidemment dans l'usage du chinois sous l'époque impériale. Les édits impériaux ou les écrits officiels utilisaient une langue beaucoup plus écrite, tandis que une langue orale existait. Et les preuves, d'ailleurs, archéologiques nous le montrent. Par exemple, les soldats envoyés sur les frontières, donc écrivaient des correspondances à leur famille dans une langue tout à fait banale, quotidienne. Ou d'autres exemples de ces écrits quotidiens, les calligraphes célèbres, par exemple, de 4e, 5e siècle, nous ont laissé de nombreux textes de leur vie quotidienne, en offrant des cadeaux, en saluant donc leurs amis et autres. Et ils étaient écrits dans une langue orale, sauf que la langue a tellement évolué que cette langue orale est devenue aujourd'hui beaucoup plus difficile à comprendre que la langue officielle écrite donc de façon solennelle.
J'ai vu tout à l'heure, monsieur a levé la main pour vous poser une question. Allez-y. Bon, on a encore quelques minutes. Si vous voulez, vous présentez-vous. Voilà.
Pardon.
Ouais.
Bonjour,
Ouais.
Johan Coudin, Kuyoyo, en ce moment à Paris 3, dans le département de chinois. Juste une remarque pour que la rencontre ait lieu avec nos collègues qui sont pas sinologues, c'est de rappeler que on a la langue parlée d'un côté et l'écriture de l'autre, mais que ce système graphique qui a été initié sous les Han, il servait avant tout, c'était la fonction première de l'écriture et de l'alphabétisation, si on peut employer ce terme à ce moment-là et à cette époque-là, pour un certain type de chinois. Parce que tout de suite, son archive évoquait le fait qu'il y ait un chinois moderne d'un côté et un chinois de l'autre, parce qu'il était surtout classique. Et que c'était cette langue-là qui était aussi apprise par les Japonais, les Coréens, les Vietnamiens, parce qu'il s'agissait de passer des concours impériaux qui se sont perpétués jusqu'à la fin de l'Empire. Et là, on retombe sur nos pattes avec comment l'entité politique dont il était question tout à l'heure. Mais rien à voir avec la langue moderne qui a pu être notée au moyen du système graphique qui est à leur disposition, qui était soit les sinogrammes, soit les dérivés qui en ont été faits plus tard.
Ah ben, si vous voulez, je crains que le professeur Dieter est trop fatigué. J'ai entendu son lance, ces trois mots excellents, bien prononcés. Je peux mesurer votre niveau de chinois. Si vous voulez, vous pouvez traduire pour.
那很简单来说，是因为那些两位咱们不是汉学家，所以我想建议一下，因为刚才宋老师说，就是有现代汉语，就是也有说中文，还可是最大的就是最重要的概念就是那个文言文，因为其实就是古代的时候，为什么就是人要学汉字，就是为了就是古文，对吧？所以大概就是这样。
OK, il y a d'autres remarques, d'autres questions? Profitons bien de l'occasion, hein? Voilà. Bon. Il n'y en a pas? soit vous êtes trop fatigué, soit vous êtes en train de réfléchir, voilà, avaler beaucoup de nourriture intellectuelle excellente. Du coup, il faut un peu de temps pour digérer. Hein. Bon, vous avez encore des questions? Non, vous n'avez pas de questions? Et une fois, oui.
Si j'ai rien. Merci beaucoup d'avoir été là, parce que je suppose que tout le monde partagera le fait que d'avoir des gens qui ne sont pas spécialistes du monde chinois et viennent avec leurs éclairages et leurs différentes disciplines, c'est absolument passionnant. Et merci aussi aux traducteurs, parce que c'est un casse-tête monstrueux. Donc à ceux qui l'ont publié et à ceux qui l'ont fait. Et il me semble que, comment, à travers l'idée de nation qui a été tout le temps employée, on a pu voir que, au sein même de notre discussion, enfin de la discussion qui a eu lieu aujourd'hui, on a pu voir que nation, ce matin, il avait été fait question de Guotia, Zuguo, Zhengfu. Et nation, c'était Guotia. Et cet après-midi, quand on a eu la discussion, grâce à M. Delannoy qui a remis le concept de nation sur le tapis, on s'est retrouvé avec Minzu. Et Minzu est resté, est vraiment resté la seule traduction. Après, on a eu une proposition de Guozhu, et ça m'a réévoqué deux choses quand on parlait d'influence, et c'est cette médiation du Japon, parce que Minzu, c'est Binzoku au départ. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas évoqué d'une part. Et l'autre, qui, et je rappelle pour ceux qui sont de ma génération, quand nous, on a appris Minzu, on ne la traduisait pas comme ethnie ou nation, mais comme nationalité, pour Charles Chouminzou, avec une référence directe à la traduction depuis le russe, qui était derrière comment Staline. Et là, ce qui était très intéressant aujourd'hui, c'est que nationalité n'a pas été prononcée, il me semble, une seule fois, et je n'ai pas encore lu le livre, et je ne sais pas ce qu'il en est. Et c'est là où la référence à Joël Toraval aurait été intéressante, parce que je crois que c'est le texte qui marque un petit peu le point sur ces différentes difficultés, où le Minzou est en train de revenir. Parce que si je peux me permettre une anecdote personnelle, avant le Covid, j'enseignais à Xiata, à Xiamenta, tu es là. Et sur 25 ans, en Chine, visuellement, le language landscape, on est passé de Zhenmin à Minzu.
Dis-moi. 因为中国有56个民族，会导致中国分裂成好多块，所以他们不赞成用民族这个词，改成用族群这个词。问题是，改成族群这个词，那种分离的或者离心的因素就不存在吗？所以，仅仅是概念改变，而且是后来改变，是不是能够解决现实的问题？
Là, on est un peu dans la casuistique donc, des études autour de la notion donc, nation qu'on rendait tout à l'heure Monsieur Gouda donc, rappelait pouvait être rendu par différents termes. Et donc, Monsieur Ge fait remarquer que en Chine actuellement, il est tout à fait épineux d'utiliser, de continuer à utiliser le terme Minzu, puisque Minzu étant la traduction que vous avez donnée nationalité, c'est-à-dire les ethnies minoritaires, notamment, il y en a 56. Et donc, la force centripède de cette notion est tout à fait dangereuse. Centripède ou centrifuge? Oui, c'est ça. Et tout à fait dangereux pour donc, un pays qui réclame évidemment son unité. Mais il propose à la place donc, un autre terme qui est Zhuqun, composé de Zhu, toujours, donc ethnie, Qun, communauté, groupe de personnes. Sauf que en remplaçant ce mot Minzu par Zhuqun, est-ce que cette force centripède n'existe plus?
Ok. Je dois impérativement conclure parce que je viens d'avoir le message qu'on doit céder la salle dans quelques minutes. Donc, je dis quelques mots. C'est comme toujours, hein, quand je crois que c'est un signe, c'est un critère de plus ou moins réussite. C'est que d'un côté, on a appris beaucoup de choses, tout en même temps, ça nous interpelle, hein, laisser beaucoup de questions dans notre tête. Je pense que c'est le cas aujourd'hui. Je pense qu'on a parlé beaucoup d'admiration pour M. Ge. Bon, ben, il y a M. Lamoureux. Ben, moi, je pense que, pour vous, le plus de grande admiration, à part pour M. Ge, c'est plutôt pour les traducteurs, surtout M. Shunggang. Et donc, il faut qu'on absolument. Je ne peux pas rêver de. Je pense vous aussi, hein. On ne peut pas rêver de mieux, hein, qu'un traducteur aussi excellent pour cette journée. Donc, de côté traduction en chinois, ça, j'ai vaguement entendu que je peux pas, j'ai pas vérifié tout, mais que, tout ce que fait par M. Shunggang, j'ai bien entendu. Donc, vraiment, 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 merci beaucoup, hein, pour M. Shunggang. Et Qian Jin, il est parti, pour quelque chose, il doit écouter un cours, tout à l'heure, il nous revient. Merci encore.